monde aujourd'hui. À Washington.
Ekia Badou avec vous en direct de Washington pour Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel. Bonsoir à tous, voici les titres. Au Sahel, une soixantaine de djihadistes tués ou capturés en un mois, selon un bilan de l'état-major français. Au Tchad, après 7 semaines de grève générale, un accord a été trouvé. Les fonctionnaires ont reçu la promesse de récupérer leur salaire. Au Cameroun, Paul Biya a convoqué un conseil des ministres, une première depuis plus de 2 ans. En Syrie, tandis que l'offensive se poursuit, un nouveau convoi d'aide humanitaire a pu pénétrer dans la Ghouta orientale. Ne manquez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. L'armée française déployée au Sahel a en un mois tué ou capturé une soixantaine de djihadistes. Les opérations ont eu lieu dans la zone des trois frontières, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Éric Manirakiza.
Des opérations ont commencé le 15 février, selon l'état-major français. La force Barkhane a saisi ou détruit des pick-up, des motos, des équipements individuels ou collectifs et du matériel servant à la confection d'engins explosifs. Le 12 février, l'armée française a tué une dizaine de djihadistes dans le nord-est du Mali. Entre le 9 et le 12 mars, deux opérations conjointes avec l'armée malienne et nigérienne ont permis de mettre hors de combat une dizaine de terroristes dans la même localité. Le 21 février, l'armée française a aussi perdu 2 soldats dans l'explosion d'une mine artisanale. L'opération Barkhane contre 4000 troupes, cette force a chassé du nord du Mali les groupes liés à Al-Qaïda. Cependant, des zones entières et du pays échappent au contrôle et des attaques visent régulièrement les forces maliennes, françaises et de l'ONU. La signature en 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes reste inefficace. Le Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad ont créé la force du G5 Sahel pour lutter efficacement contre les groupes djihadistes. Elle devra atteindre 5000 soldats d'ici la mi-2018 et va bénéficier sur le terrain de l'appui des forces françaises.
Un garde forestier a été tué dans l'attaque d'un poste de l'est du Burkina Faso par des hommes armés soupçonnés d'appartenir à la mouvance djihadiste. Aussi, le nord du Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 3 ans qui ont fait 133 morts en 80 attaques selon un bilan officiel. Fin de la grève générale et illimitée dans le secteur public au Tchad. Les partenaires sociaux et le gouvernement tchadien ont accordé leur violon hier. Un accord a été signé entre les deux parties sous l'égide du cabinet civil du président de la République. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Au Togo, les fonctionnaires des secteurs de la santé et de l'éducation sont en grève depuis mardi pour exiger de meilleures conditions de travail et l'augmentation de leurs primes et indemnités après des mois de grogne sociale et politique. À l'appel du syndicat national des praticiens des hôpitaux du pays, l'activité est toujours paralysé ce jeudi dans plusieurs hôpitaux publics de Lomé, la capitale. Au Bénin, le gouvernement prend des mesures 24 heures après les condamnations prononcées contre 5 grossistes de mauvais produits pharmaceutiques lors du Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi à Cotonou. Le gouvernement a suspendu l'ordre des pharmaciens. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Marc Lowcock a bouclé mardi soir sa mission de 48 heures à Kinshasa. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence a interpellé les autorités congolaises sur le drame humanitaire dont il a pu se rendre compte à Kalemi dans la province du Tanganyika. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
Après plusieurs heures d'échange, Félix Tshisekedi de l'UDPS, Vital Kamerhe, le président de l'Union pour la Nation Congolaise, et Eve Bazaïba, la secrétaire générale du Mouvement de Libération du Congo, ont, à travers une déclaration commune, rappelé leur détermination à aller aux élections et annoncé à l'occasion la possibilité pour eux de faire bloc pour gagner. Tout en stigmatisant les embûches posées sur le processus électoral dont Joseph Kabila demeure l'auteur principal, nous réaffirmons sans ambages notre détermination à aller aux élections, mais rejetons la machine à voter. Nous envisageons la possibilité de mobiliser nos énergies afin de mettre en place des ressources humaines, logistiques et matérielles en vue de mutualiser nos efforts et nous aligner sur des objectifs communs, indique le communiqué de ces trois regroupements politiques lu par Madame Eve Bazaïba du MLC. Ces partis politiques appellent également à un audit international du fichier électoral et rappellent qu'il demeure ouvert à d'autres forces politiques significatives qui désirent rejoindre leur combat. À 9 mois des élections, les lignes politiques bougent en République démocratique du Congo. La semaine dernière, c'est le PALU, parti lumumbiste unifié, pourtant allié de la majorité présidentielle depuis 2006, qui discutait avec le MLC de Jean-Pierre Bemba pour une éventuelle alliance en vue des élections prévues le 23 décembre 2018. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Cameroun, Paul Biya convoque un conseil des ministres, une première depuis plus de 2 ans. Le gouvernement camerounais a été remanié le 2 mars dernier. Plusieurs ministres ont fait leur entrée sur fond de crise anglophone et de préparation des prochaines échéances électorales. On y revient dans notre partie magazine. Au Gabon débute ce jeudi au tribunal de Libreville les premières audiences de la Cour criminelle spéciale. Créée en janvier dernier, elle a pour but de juger les hauts cadres poursuivis pour des détournements de biens publics. Blaise Ouada, qui avait à sa charge un projet d'assainissement de Libreville, financé par l'Union européenne, était le premier à la barre. Depuis le début de l'année, l'Algérie expulse des migrants subsahariens, parfois interpellés sur leur lieu de travail. Ces derniers étaient amenés jusqu'à la frontière avec le Niger, mais la semaine dernière, un groupe de migrants a été expulsé à la frontière malienne. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution renouvelant pour 1 an sa mission de paix au Soudan du Sud, assortie de la menace d'imposer un éventuel embargo sur les armes. Nathalie Barge.
La résolution souligne que le Conseil de sécurité est prêt à étudier un embargo sur les armes pour priver les belligérants des moyens de continuer à combattre. Le texte demande à toutes les parties d'arrêter immédiatement les combats au Soudan du Sud et assure que les auteurs de violations seront tenus pour responsables de leurs actes. La résolution prévoit de maintenir à 17 000 le nombre de casques bleus, incluant une force de protection régionale. 41 hauts responsables sud-soudanais ont été identifiés en février par une commission de l'ONU pour les droits de l'homme en vue de poursuites pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, dont des viols et meurtres à caractère ethnique. En 2013, 2 ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, 4 millions de déplacés et provoqué une grave crise humanitaire.
En Égypte, à l'approche de la présidentielle prévue fin mars, le tourisme semble de nouveau reprendre au bord de la mer Rouge ou devant les pyramides. Les touristes font un grand retour prometteur après des années d'instabilité politique émaillées d'attaques terroristes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne a frappé des positions du Hamas dans la bande de Gaza ce matin en représailles à l'explosion de 2 engins le long de la frontière. Aucun blessé n'a été rapporté. Et puis la Cour suprême israélienne a suspendu un plan gouvernemental prévoyant l'expulsion prochaine de milliers de migrants africains entrés illégalement dans le pays. La Cour, saisie par des organisations de défense des migrants, a gelé le plan jusqu'au 26 mars, donnant à l'État jusqu'à cette date pour exposer en détail son argumentaire. En Syrie, un nouveau convoi humanitaire a pu pénétrer dans la Ghouta orientale. Toutefois, les offensives se poursuivent et le régime a repris la ville de Amayourie. Le point avec Yacouba Ouadréogo.
L'armée syrienne est entrée dans Amourie hier soir et a repris l'intégralité de la ville d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG basée à Londres ajoute que le régime contrôle plus de 70% de l'enclave rebelle de la Ghouta orientale. Le général Vladimir Zolotoukine, porte-parole du Centre russe pour la réconciliation, a indiqué qu'une moyenne de 800 personnes par heure empruntent le couloir humanitaire pour quitter la zone rebelle. « Nous continuerons à combattre les terroristes, nous les vaincrons », a affirmé Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. « Les blessés sont sur les routes, nous ne pouvons pas les déplacer. Les avions de chasse visent tout ce qui bouge », a déclaré Ismaël Al-Khatib, médecin de la région. Un nouveau convoi d'aide a pu entrer aujourd'hui dans Douma, d'après le CICR. Toutefois, le déchargement de la cargaison a été brièvement interrompu à cause d'obus tombés à proximité. Par ailleurs, la Turquie a réaffirmé que la ville d'Afrin serait, je cite, « très bientôt nettoyée des unités de protection kurde de Syrie alliées aux États-Unis, mais qu'Ankara considère comme des terroristes ».
Et pour finir, vive émotion au Brésil après l'assassinat hier de Marielle Franco. À 38 ans, cette conseillère municipale de gauche de Rio de Janeiro, connue pour ses prises de position contre les violences policières, elle a été abattue avec son chauffeur après un rassemblement pour la promotion des femmes noires. Des marches de protestation ont lieu dans plusieurs villes du pays. Amnesty International souhaite une enquête immédiate. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
L'Afrique centrale a connu une croissance économique très lente entre 2016 et 2017. D'après la BAD, la baisse des prix des matières premières et la situation sécuritaire expliquent cette baisse. Pour 2018 et 2019, l'augmentation des investissements dans les infrastructures, la résilience du secteur des services et la reprise du secteur agricole vont stimuler la hausse. Le Cameroun est le plus gros contributeur régional. Suivent la RDC, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo et le Tchad. La Centrafrique, Sao Tomé et Principe sont les derniers du classement. La croissance devra être également timide en Afrique australe. Le taux de chômage élevé, les prix des produits de base plus bas que prévu, dérapage budgétaire et endettement croissant dans certains pays et les incertitudes politiques plombent l'économie de la région. L'Afrique du Sud, qui représente la plus grosse économie, a enregistré le deuxième taux de croissance le plus faible, juste derrière la Namibie. Le FMI octroie au Burkina Faso un crédit de plus de 157 millions de dollars pour appuyer ses réformes économiques sur 3 ans. Il s'agit de restaurer les équilibres de la balance des paiements, favoriser la croissance inclusive, réduire la pauvreté, créer un espace budgétaire pour les dépenses d'investissement prioritaires comme la sécurité, les services sociaux et les infrastructures. Toutefois, la détérioration de la sécurité, les aléas pluviométriques, la volatilité des prix des principaux produits exportés, en l'occurrence le pétrole, le coton et l'or, pèsent sur les perspectives de croissance.
Et maintenant, place au sport avec Nicolas Pignot. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Ekia, bonsoir à tous.
Place à la Ligue Europa ce jeudi.
Et oui, Dortmund qui va devoir batailler pour se sauver en huitième de finale retour de l'Europa League contre Salzbourg. Et ce, après la défaite de Buzyn à l'aller à domicile. Chez les autres grosses écuries européennes, Arsenal a pris une belle option pour la qualification en s'imposant 2-0 sur la pelouse du Milan AC à l'aller. Quant à l'Atlético Madrid, le club s'est facilement imposé ce jeudi 5-1 après son succès à domicile contre le Lokomotiv Moscou. Torres et Griezmann ont marqué dans la capitale russe. Demi-finaliste la saison dernière, Lyon a pris une option contre le CSKA Moscou en s'imposant 1-0 en Russie. Et puis Marseille se rend sur la pelouse de l'Athletic Bilbao après une victoire 3-1 à l'aller au Vélodrome.
Tirage au sort attendu vendredi en Ligue des Champions.
Sont en lice le Bayern Munich, le FC Barcelone, la Juventus Turin, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid, l'AS Rome ou encore le FC Séville. Le tirage au sort sera intégral, c'est-à-dire sans tête de série ni protection nationale pour ces rencontres qui vont rythmer la première quinzaine du mois d'avril. L'écrémage, on le rappelle, des huitièmes de finale a fait 2 victimes de choix, Manchester United de José Mourinho et le Paris Saint-Germain de Neymar.
La Coupe CAF reprend ses droits dès demain.
Après son large succès à Pointe-Noire 3-0, le club sportif La Mancha se déplace au Soudan face à Al Ahly Chandi. Et puis en Afrique du Sud, après le 0-0 du match aller, le Petro Atlético de Luanda arrive à Pretoria face au Supersport United.
Et pour finir, on parle NBA, championnat de basket nord-américain.
Golden State a renoué avec la victoire après 2 défaites de suite en dominant les Lakers de Los Angeles 117-106 malgré les absences de plusieurs cadres dont Stephen Curry. Boston, déjà qualifié pour les playoffs, a compté jusqu'à 20 points d'avance sur Washington avant de s'effondrer en fin du temps. En toute fin de match, le score final 124-125 pour les Wizards. Enfin, Orlando a mis fin à une série de 5 défaites de suite face à Milwaukee, victoire 126-117.
Merci beaucoup Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à présent les dossiers du jour. Fin de la grève générale et illimitée dans le secteur public au Tchad. Les partenaires sociaux et le gouvernement tchadien ont accordé leur violon hier. Un accord a été signé entre les deux parties sous l'égide du cabinet du président de la République. Les responsables syndicaux ont fait le compte-rendu de cet accord ce jeudi à la Bourse du Travail de N'Djamena. Beaucoup des travailleurs sont pessimistes quant à l'application intégrale de cet accord. Notre correspondant André Komadjingar.
C'est par ce champ de circonstances que l'Assemblée générale extraordinaire des travailleurs tchadiens a démarré ce jeudi à la Bourse du Travail. Rencontre au cours de laquelle les responsables de la plateforme syndicale revendicative ont expliqué à la base le bien fondé de cet accord dont l'application relève de la responsabilité directe du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Un accord qui permet la suspension de la grève générale, certes, mais selon le porte-parole de la plateforme syndicale, les fonctionnaires ne vont reprendre le travail que quand le dernier agent de l'État aurait gagné effectivement le salaire de février échu. Barka Michel.
Le point 1 de l'accord était le paiement de ce salaire. Donc, nous attendrons notre argent et nous avons décidé de la reprise.
Quelques travailleurs sont pessimistes quant à l'application de cet accord.
J'ai l'impression que ça nous avantage, mais je ne suis pas sûr. Parce que je n'ai pas confiance à ce que nous appelons gouvernement, sincèrement. Parce que plusieurs accords ont été signés, mais l'application pose toujours problème.
Si jamais le gouvernement ne tient pas à ses propos, je suis sûr et certain que les gens vont repartir encore en grève.
Dans la lutte syndicale, on ne peut pas gagner à 100%. Vous demandez 100, mais si on vous donne 10, vous prenez les 10 et vous continuez la lutte.
Un juriste qui requiert l'anonymat soulève quelques points d'ombre de cet accord.
Il a été dit verbalement que l'abattement du salaire sera restitué, mais l'accord ne l'a nullement mentionné dans un point. S'agissant du moratoire de 3 mois qui sera observé par les banques aux agents de l'État qui sont sous crédit, il convient de relever que les banques sont dans une situation de droit privé et par conséquent dans une situation contractuelle avec leurs clients. Et donc si moratoire il y a, le gouvernement doit discuter avec les banques au préalable et obtenir d'elles une réponse positive avant que cette partie ne soit intégrée dans l'accord.
Pour Dr Doyen Dibam, juriste et consultant international, cet accord est beaucoup plus politique que social.
Et cet accord est scandaleux du point de vue de la revendication des droits des fonctionnaires italiens. Derrière cet accord, il se cache bien évidemment des velléités autres que la satisfaction définitive sur le plan social des fonctionnaires tchadiens.
Pour Guilayou Jérémy, président du syndicat national des anciens et chercheurs du supérieur SINEX, ce document prend en compte toutes les revendications de son organisation. En revanche, le SINEX, section de l'université de N'Djamena, n'entend pas reprendre le travail tant que les arriérés de salaire des anciens contractuels, les frais de jury et d'heures supplémentaires ne sont pas payés. André Kodmadingar N'Djamena, VO Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Cameroun, il s'agissait de la première rencontre entre les membres du gouvernement et le chef de l'État, Paul Biya, depuis le remaniement du 2 mars dernier. Ce Conseil des ministres a été accueilli comme un grand événement dans le pays. Le dernier remonte au 15 octobre 2015. Qu'est-il ressorti de cette convocation de Paul Biya? Raïssa Girondin a joint Joseph Essama, journaliste indépendant basé à Yaoundé.
Déjà, il faut dire qu'il ne s'agissait presque pas d'un conseil ministériel parce que un conseil ministériel sous-entend un débat entre le président de la République et les membres du gouvernement. Mais dans ce cas, il s'agissait d'une communication spéciale du chef de l'État.
Donc vous avez dit que ça portait sur la communication spéciale du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il en est réellement ressorti?
Ah oui, bon, le chef de l'État a pris la parole. Il a, par exemple, prescrit la mise en œuvre harmonieuse du programme conclu avec le FMI, la finalisation des grands projets structurants qui sont les ports et les barrages, l'électrification. Et il a en outre prescrit l'accélération de la croissance et du plan spécial jeune. Il a aussi parlé de l'accélération du processus de décentralisation. Il faut noter que lors du dernier remaniement, il y a tout un ministère qui a été créé et qui est chargé de la décentralisation et du développement.
Mais c'est un président qui est plutôt absent. Comment le pays arrivait à fonctionner sans qu'il y ait de conseil de ministre durant 3 ans?
Il faut noter déjà qu'au Cameroun, on ne sait vraiment pas comment le gouvernement fonctionne parce que les ministres n'ont presque pas accès au président de la République. Certainement, les ministres ne répondent qu'aux instructions du chef de l'État. Aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est que dans les réseaux sociaux, les interventions, les internautes, c'est que ce conseil des ministres était tout simplement l'occasion du président de la République pour découvrir les visages de ses ministres et l'occasion aussi pour les ministres de lui serrer la main, c'est tout. Parce que tout ce qui a été dit lors de son discours du 31 décembre, lors de son discours à la jeunesse, donc il n'y avait vraiment rien de nouveau là. Mm-hmm. C'est ça les réactions des internautes.
Là, le fait qu'il rassemble ses troupes autour de sa communication spéciale, est-ce que vous pensez que c'est en préparation des élections présidentielles?
Oui, c'est un aspect qu'il faut aussi noter ici, qu'il y a au moins 4 à 5 élections qui doivent se tenir au Cameroun cette année. Les sénatoriales se tiennent dans quelques jours, à la fin du mois de ce mars. Donc, je crois vraiment qu'il y a peut-être en offre. Un accent a aussi été mis sur ces élections qui doivent se tenir.
Joseph Essama, journaliste joint à Yaoundé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Guinée, un millier de femmes de l'opposition ont de nouveau manifesté à Conakry pour protester contre les violences policières et les résultats des récentes élections locales remportées par le RPG, le parti au pouvoir. Idriss Fall a joint à Conakry Madame Maïmouna Ba Diallo, vice-présidente du comité national de l'UFDG, le principal parti d'opposition.
Les femmes ont manifesté parce qu'elles n'ont pas été entendues la dernière fois. On a fait un plaidoyer la dernière fois, on a fait une marche blanche pour demander aux autorités de ce pays et au président de la République d'arrêter de tuer nos enfants. On a pensé qu'il a compris. Mais malheureusement, hier, il y a eu une manifestation de l'opposition. Ils ont tué 3 jeunes. Donc on ne comprend pas. On veut savoir si nos enfants sont des Guinéens comme tout le monde et si c'est le président de toute la Guinée. Pourquoi cette stigmatisation? La semaine passée, toute la ville a manifesté. Ils sont allés jusque devant chez lui, l'insulter, le traiter de tous les mots d'oiseau. Aucune personne n'a été touchée. Et là, hier, c'est l'opposition qui manifeste. C'était l'occasion de rentrer dans les quartiers, violenter les gens, violenter les domiciles et tuer les gens comme ils le veulent.
L'UFDG conteste les résultats des élections locales du 4 février. Les tribunaux se sont prononcés. Alors pourquoi envoyer les enfants dans les rues se faire tuer?
On n'a pas envoyé les enfants dans les rues. Ces élections ne sont pas passées dans les règles de l'art. Comment pouvez-vous comprendre qu'on fasse des élections, qu'on fasse les comptages au niveau des bureaux de vote, on prépare les PV? On envoie les PV jusque dans les bureaux de centralisation. Alors, on commence les comptes. Dès qu'ils se rendent compte que le pouvoir est en train de perdre, ils dissimulent des PV, soi-disant que ces PV ne sont pas retrouvés. Où on a vu ça? Dans quel pays du monde? Pourquoi on va accepter ça? Hein? Des PV qui sont rentrés jusque dans les bureaux de centralisation. Toutes les preuves existent. Il y a des cahiers de transmission qui le prouvent. Et comment ça peut se perdre? Si c'est perdu, c'est la faute à qui? Pourquoi c'est l'électeur qui va en souffrir? Si c'est perdu, il y a des copies un peu partout, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la CENI. Chaque délégué de parti a une copie. Pourquoi on ne retrouve pas ces copies-là pour rétablir les gens dans leurs droits? C'est plus facile pour eux de dire qu'on n'a pas retrouvé les PV, donc on annule ces voix-là. Vous allez l'accepter?
L'UFDG, c'est que cette formation n'a pas pu obtenir devant les tribunaux. Vous tenez coûte que coûte à l'obtenir par la rue, quoi.
C'est le seul moyen qu'on a. On a usé de tous les moyens légaux qui sont à notre disposition. C'est le seul moyen qui nous reste, parce qu'on n'est pas prêt à abandonner. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller aux élections, sinon, ce n'est pas la peine de faire les élections dans ce pays. On ne peut pas l'accepter. Il s'est toujours fait élire par vol depuis 2015. Et là, c'est terminé. Parce que sinon, on est en train de tout bouger dans ce pays. On ne peut pas l'accepter. C'est toute l'opposition guinéenne Il ne s'agit pas que de l'UFDG seulement. Chacun a son problème là-dedans et tout le monde a porté plainte.
Maïmouna Ba Diallo, vice-présidente du comité national de l'UFDG, le principal parti d'opposition.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Xiang Gangqiang, à la présentation, Ekia Badou. Ainsi va le monde. Aujourd'hui, on reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente soirée à vous et bonne suite des programmes. Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Vers fin décembre de l'année dernière, l'administration Trump a présenté sa stratégie de sécurité nationale. L'une des actions prioritaires qu'elle prévoit est le progrès et la protection de la liberté religieuse et des minorités religieuses à travers le monde. Le vice-président Pence, dans ses remarques au sommet mondial pour la défense des chrétiens persécutés, a dit « Protéger et promouvoir la liberté religieuse est une priorité politique étrangère de l'administration Trump ». L'ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse internationale Samuel Brownback a également souligné que dans son discours à l'Institut de la paix des États-Unis, que la liberté religieuse est le plus important sujet de politique étrangère aujourd'hui. Et s'il y a un trait commun entre les régimes répressifs du monde, c'est l'oppression des minorités religieuses. La persécution, la répression et la discrimination sont les lots quotidiens des membres de ces minorités dans beaucoup de pays du monde. Croyants et non-croyants sont les cibles des violences. Leurs droits humains sont limités ou parfois complètement réduits. La réponse des États-Unis à de telles violations et abus de la liberté religieuse s'appuie sur la loi sur la liberté religieuse datant de 20 ans. Cette mesure a introduit la promotion et la protection de la liberté religieuse comme priorité des politiques étrangères des États-Unis. Au cours des années écoulées, le département d'État a fourni une orientation stratégique à ses ambassades et consulats sur la manière de promouvoir de manière consistante les droits des minorités religieuses, de même que leur traitement équitable au sein de la société. Reconnaissant l'importance de préserver l'héritage culturel, le département d'État a développé un partenariat avec l'Institut Smithsonian pour former les leaders des églises et groupes religieux minoritaires sur la manière de protéger les lieux anciens d'importance culturelle. Le département d'État a aussi œuvré avec l'Organisation des États américains pour amener les pays de notre hémisphère à se joindre à ces efforts visant à combattre la persécution dans d'autres régions. Toutefois, un nombre croissant d'acteurs continue d'attaquer les minorités religieuses, sapant ainsi la diversité religieuse. En réponse, nous devons demeurer engagés dans la défense de cette liberté fondamentale. Nous pouvons obtenir des résultats durables en créant et protégeant des environnements dans lesquels tout le monde peut jouir de la liberté des religions ou des croyances.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue à bord.